Notre Dieu et Père, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta parole, cette parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Seigneur, nous croyons que tu nous parles encore aujourd'hui par ta parole, qui est inspirée par ton esprit. Et nous te remercions de ce que ce matin, cette parole puisse vraiment toucher nos cœurs et nous animer, Seigneur, pour aller plus loin, pour grandir en toi et te servir encore mieux, Seigneur, afin que ta bénédiction puisse rejaillir au travers de nous, de notre Église, pour que des âmes soient sauvées et puissent entrer dans ton règne. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un peu comme si c'était le 1er janvier. On n'est pas le 1er janvier, là, aujourd'hui. On est déjà à mai. Je dis ça parce que je vais commencer aujourd'hui une série sur le projet pastoral de cette année que nous avons décidé ensemble, qui est l'obéissance. Après la semaine, enfin le mois famille et tout le reste. Mais je crois que c'est important aussi ce qu'on a vécu jusque-là dans le cadre de l'obéissance, parce que c'est pas simplement un sermon, un message qui va changer les choses. C'est dans notre attitude d'obéissance que se trouve aussi la clé. Alors, l'obéissance, c'est un thème qui doit en principe un peu être notre thème, notre fil conducteur de cette année, pour rentrer dans cette compréhension de l'obéissance selon la parole de Dieu. Les projets pastoraux d'enseignement, ils sont un peu nés suite aux difficultés que nous avons pu vivre dans l'Église pour restaurer l'enseignement systématique sur lequel l'Église peut se fonder, peut s'appuyer, pour que tous ensemble nous ayons une compréhension commune de certaines choses importantes. Parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible qu'on peut... Disons, on ne pourrait jamais s'arrêter, on ne s'arrêtera jamais de comprendre et de connaître des choses. Mais il y a des choses plus importantes que d'autres pour nous en tant que corps. Et je vous rappelle juste rapidement que ce thème de l'obéissance rentre dans l'ensemble des thèmes que nous avons commencé, en particulier 98, qui n'était pas uniquement un thème d'enseignement cette année-là, mais un thème où nous avons vécu des choses très fortes, qui était la repentance. Et la repentance, c'est toujours, bien sûr, le fondement de notre rencontre avec Dieu, parce que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu avec notre propre suffisance, il faut que nous passions par la repentance. Et donc cette année-là, bien sûr, c'était un enseignement très fort, parce que nous l'avons vécu très fort. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de ce que nous avons vécu, mais c'était la repentance cette année que nous avons vécu en tant qu'enseignement. Ensuite, la prière, et tout repose... Enfin, nos fondements, nos programmes, je dirais, puisqu'on avait parlé un peu de programme tout à l'heure, reposent avant tout sur la prière, que Dieu nous conduise dans nos programmes d'église. Les dons spirituels, c'était en 2000, l'année 2000, les dons spirituels. Et c'est pas parce que nous avons fait cet enseignement à ce moment-là qu'il ne faut pas le reprendre. Mais c'est partie de nos fondements. Nous croyons que nous ne pouvons pas servir Dieu sans l'aide des dons que Dieu nous donne. Il y a les talents que nous recevons, mais il y a les dons spirituels. Les dons vont au-delà des talents. Dieu renouvelle nos talents naturels qu'il nous a donnés, et chacun, nous avons des talents différents. Mais les dons, vous savez, dans l'Église, il y a un enseignement dans Corinthiens qui concerne les dons, Corinthiens 12 et Corinthiens 14. Et dans cet enseignement, il y a un verset qui parle de la main dansante de Dieu qui distribue les dons dans un culte, dans une réunion, etc., quand il y a un rassemblement. Et donc Dieu peut distribuer des dons à chacun d'entre vous, non pas forcément dans un service, dans un ministère que vous avez. Si vous avez un ministère de guérison, ça peut vous être donné pour servir Dieu de manière particulière, ou un don de connaissance, enfin de prophétie, etc. Mais il peut vous donner n'importe quel don, à n'importe quel moment. Il faut simplement se laisser être réceptif pour le donner. Bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que les dons spirituels sont pour nous importants dans l'exercice du ministère de l'Église. En 2001, on avait abordé la clarté, et en particulier la clarté de communication dans les couples. C'est quelque chose d'important, puisque nous avons un appel pour les familles et les couples. il faut qu'il y ait la clarté dans nos communications et aussi la clarté dans l'Église, bien sûr, entre frères et sœurs. Donc, tout ce domaine de la clarté. Le corps de Christ, en 2002, et là, Dieu nous a fait un clin d'œil, qu'en 2002, quand on avait cet enseignement sur le corps de Christ, comment vivre en tant que corps, eh bien, nous avons pu avoir la grâce et le privilège que dans cette Église, on était encore en travaux complets, enfin, pas complets, mais pas mal de travaux, on était au sous-sol et toutes les églises de la région étaient réunies. Ils n'étaient pas au grand complet, hein. Il y en avait des fois deux ou trois de certaines églises, mais toutes les églises étaient réunies. Et c'est là que le Seigneur a agi pour qu'il y ait une puissance spirituelle qui se manifeste ici et qui puisse être vaincue. Et nous avons pu avoir la victoire sur ce lieu qui était un lieu assez chargé, et grâce au corps, grâce à l'unité. Et aujourd'hui, enfin cette année, en 2011, eh bien nous avons le privilège de pouvoir nous réunir tous ensemble, mais toutes les églises et tous les membres. Vous voyez, donc c'est un peu comme si le Seigneur faisait ce clin d'œil en disant maintenant est arrivé le temps où sur cette région je veux étendre mon esprit. Et donc ça, c'est un signe qui est très prometteur pour ce qui nous attend dans l'avenir. En 2003, nous avons traité notre identité en Christ, hein, notre identité. Et là, nous sommes en train de faire une vidéo sur l'identité de l'Église, va sortir bientôt, parce que tout a été fait. Maintenant, il n'y a plus que le travail de montage. Et l'identité en Christ est absolument capitale pour que nous ne marchions pas dans notre identité propre, mais dans celle que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, et que nous puissions vraiment marcher dans cette identité et non pas dans notre identité propre. En 2004, c'était la grâce, un grand thème cher à la réforme aussi, de retrouver le thème de la grâce, la croix en 2005, qui est centrale dans nos vies. En 2006, le Saint-Esprit. En 2007, la vérité. La vérité dans la parole. Et en 2008, la vérité sur nous-mêmes. Se regarder nous-mêmes. Et en 2009, nous avons développé le thème pastoral. Jusque-là, c'était bâtir l'Église. Et là, c'était bâtir le royaume. Et là, nous sommes dans l'esprit de bâtir le royaume. C'est-à-dire de sortir de l'Église pour étendre le royaume de Dieu. Que nous puissions, en tant qu'Église, en tant que membre, eh bien, impacter les structures qui sont au dehors. Donc, c'était Christ en nous. L'espérance de la gloire, et c'est là qu'on a commencé les fiançailles et Foursquare. Et en 2010, l'adoration. L'adoration et la louange, l'adoration, qui est vraiment au centre de notre communion et de notre identité en Christ. Et cette année, l'obéissance. Vous voyez, donc, ce thème est en continuité avec les autres thèmes. Donc, il est complet, il ne les remplace pas. Tous les autres thèmes sont importants, et pour ceux qui sont nouveaux dans l'Église peuvent accéder à ces autres thèmes pour lesquels on a encore un travail de synthèse à faire, mais je sens que dans les mois qui viennent, on va avoir pas mal d'apports de personnes qui pourront nous aider à faire des choses pour que les nouveaux puissent bien prendre aussi le relais de tout ce que l'Église a appris. Thème de l'obéissance. L'obéissance, on peut dire qu'elle est propre aux disciples. Donc c'est le thème pastoral 2011, j'en ai parlé, et ça c'est l'intitulé de ce thème, hein, bâtissons le royaume de Dieu avec l'obéissance. Et donc ce thème de l'obéissance est propre aux disciples. Le thème du disciple, c'est pas spécifique à la Bible, hein. Il y a toujours eu des disciples, il y en aura toujours, parce qu'il y a des maîtres et des disciples. Et un maître, un disciple suit un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui est dans une certaine discipline, dans une certaine connaissance quelconque, hein. Peut-être un maître en science, un maître en sagesse, etc. Et le disciple est celui qui suit un maître, celui qui a devant lui quelqu'un qui a déjà traversé un certain nombre qui a un certain nombre de connaissances, que ce soit pratique, théorique, etc., et qui essaye de le suivre pour acquérir la même discipline que son maître. Discipline, qui est un mot sur lequel on reviendra, qui est très large, hein, qui est un corps de connaissances sur un tas de domaines. Vous savez, la discipline, on parle de discipline de sportive, voilà, de discipline littéraire, etc. Et donc, dans ce sens, au niveau discipline. Mais il a d'autres connotations aussi. Donc, un disciple et le maître. Et il est étonnant d'ailleurs que Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, eh bien, il n'est formé que 12 disciples. Et encore, il y avait un traître dedans. Donc, des vrais disciples, il n'y en avait que 11. Alors que dans certaines écoles de pensée, de discipline, il y avait beaucoup plus de maîtres que cela. Mais là aussi, je crois que Jésus a voulu incarner l'idée que le royaume de Dieu est comme une graine de sénévé. C'est pas la quantité qui compte. Aujourd'hui, certaines églises sont tentées par la quantité. La quantité, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous savez que actuellement, bon, on a un temps de sécheresse, mais actuellement les blés ils poussent. Mais quand il y a la moisson, par rapport au blé qui a été semé, la graine, on récolte un tas de graines. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de la vie. Mais la quantité, c'est à Dieu que ça revient, c'est pas à nous. Nous, il faut que nous focalisions sur la qualité. Quelle est notre qualité de relation avec Dieu? Quelle est notre qualité de relation les uns avec les autres? Que Dieu ensuite rajoute du monde à notre Église, ça, c'est le problème de Dieu. Mais notre problème, c'est de veiller sur la qualité. En tout état de cause, il faut que nous veillions sur notre qualité de relation avec Dieu et avec les frères et sœurs. Et c'est là que nous pouvons être un témoignage. C'est là que nous pouvons impacter la ville. C'est là que nous pouvons faire des choses. Jésus a formé 12 disciples, et ces 12 disciples ont transformé le monde d'alors, de l'époque. Ils ont transformé les choses. Nous, quand on était à Bristol, en Angleterre, on a passé avec la famille un mois de vacances, on était étonnés que, dès la fin du 1er siècle, eh bien, Bristol, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est côte ouest de l'Angleterre. Eh bien, il y avait déjà des Romains, hein, il y avait un campement romain. Et là, on a retrouvé des pièces, ils nous ont montré des pièces, où effectivement, des chrétiens avaient déjà impacté cette ville à ce moment-là. Donc, c'est venu très vite du bassin méditerranéen en Angleterre. Dès la fin du 1er siècle, il y avait déjà un impact, parce qu'il y avait beaucoup de bateaux qui venaient, etc. Et nous aussi, le Seigneur veut nous utiliser pour être un impact pour son royaume. Mais c'est notre qualité de disciple qui va être à la base de cet impact sur les autres. Donc le disciple suit un maître qui l'instruit. C'est propre au disciple. Le disciple est discipliné. Donc il est discipliné dans sa discipline, mais il est discipliné aussi dans sa vie. Dans sa manière de gérer sa vie. Quelqu'un qui suit un maître qui lui est discipliné, eh bien, s'il n'est pas discipliné, il n'apprendra rien. Donc la discipline, c'est aussi une qualité de classer des choses dans ma vie, d'agir par priorité, de savoir que j'ai besoin de faire ça et les choses secondaires, je les abandonne, etc. Vous voyez, donc c'est toute une gestion, une sorte de leadership personnel sur sa vie où il y a des choses qui prennent plus d'importance que d'autres à mesure que je connais certaines choses. Donc, il faut aussi que dans chacune de nos vies, eh bien, nous puissions faire des points pour nous discipliner, pour dire bon ben ça c'est peut-être moins important maintenant, bon c'était peut-être important avant, ça m'était peut-être utile. Et au fur et à mesure que nous avançons, la discipline doit se faire dans nos vies. Et on voit quelqu'un qui est discipliné dans sa vie parce que il gère des priorités. Il fait pas des choses au feeling. Enfin, pas tout le temps, on verra aussi qu'il y a un aspect d'équilibre, mais il est discipliné parce qu'il est disciple d'un maître qui lui veut l'utiliser dans certains domaines, et nous avons tous des domaines dans lesquels le Seigneur veut nous utiliser, il faut que nous ayons du temps. Pour cela, il faut que nous soyons disciplinés. Donc, il y a la notion de discipline qui intervient. Alors, il faut bien sûr définir ce mot discipline. Je dirais que c'est avant tout, la discipline, une attitude de soumission et d'écoute qui amène à nous accoutumer à l'obéissance. C'est-à-dire que l'obéissance devient beaucoup plus facile quand on est discipliné. Hein, quand on n'est pas discipliné, l'obéissance, c'est un calvaire. Hein. Parce que ça nous empêche de faire des choses qu'on voudrait faire, on voudrait tout faire en même temps, etc. Et donc, l'obéissance, ça devient un fardeau. Hein. Mais quand on commence à être discipliné, on peut plus facilement obéir parce qu'on est prêt à faire ce que Dieu nous demande, puisqu'on a déjà fait des choix dans nos vies. Vous me suivez ? La discipline donne aussi des règles de conduite, hein, des règles de conduite sur justement ces choix qu'on a faits, sur ces priorités, parce qu'on connaît l'appel de Dieu sur nos vies, on sait ce que Dieu attend de nous, on sait ce que la parole de Dieu attend de nous. Donc ça nous permet de bien d'avoir certaines règles de conduite. On verra plus tard qu'il faut arriver aussi à les assouplir, hein, pas simplement qu'elles nous rigidifient, mais il faut quand même qu'elles existent. En tant que disciple. Et c'est donner des règles sur les manières d'agir. Pas simplement sur ce qu'on doit faire ou pas faire, mais sur la manière d'agir. Ça, dans la vision que nous avons dans l'Église, on le retrouve au niveau des valeurs. Les valeurs, c'est la vertu, qui est basée sur la vertu, qui est la force, l'énergie, dans la manière de faire les choses. On peut faire des choses, mais suivant la manière qu'on les fait, eh bien, on n'atteint pas le même résultat parce qu'on n'impacte pas les personnes de la même manière. C'est un peu ce que nous avons vu dans les deux églises que nous avons vues. Nous avons vu une manière de faire et une autre manière de faire. Et les choses ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans une église. Sur la manière d'agir, le Seigneur veut aussi... la discipline va aussi nous impacter. Donc on verra ça aussi. Et on verra les quatre outils de la discipline... selon Matthieu 16, 24, mais on n'y est pas encore tout à fait, je vous donnerai quatre outils qui vous permettront, on ne peut pas tous les aborder aujourd'hui, mais je les citerai quand même pour vous mettre en appétit. Vivre une vie d'obéissance, je voudrais juste rester un peu sur le besoin de vivre la vie d'obéissance, c'est que on ne peut pas servir Dieu efficacement si on n'a pas appris à obéir, à suivre ses directions, à suivre la direction de Dieu. Nous devons donc être des disciples et que notre vie en tant que chrétien doit être fondée sur l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 26, je vous lis ce passage qui concerne ce point. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible, hein, cette phrase. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. Car quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. C'est terrible de dire que des chrétiens seront confrontés à cette réalité, où quand ils entreront dans la présence de Dieu, ils diront, Seigneur, Seigneur, on a fait ça, on a fait ça, on a fait des miracles, on a fait des choses extraordinaires, pour toi. Et le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Ça m'a toujours... profondément frappé de savoir que ça risque d'arriver. Bon, il ne faut pas vivre dans la crainte, dans la peur. Hein. Nous connaissons notre cœur, hein. Nous savons où nous nous situons. Hein. Chacun le sait par sa conscience, ce n'est pas un problème. Mais de dire, Seigneur, je voudrais tellement que tu dises oui, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Que nous puissions vraiment ne pas faire des œuvres qui vont nous brûler, hein, comme la paille, le foin, le chaume, mais que nous puissions faire des œuvres qui durent. Et une des clés, on vous l'a déjà dit, hein, une des clés, c'est que si vous travaillez pour des gens, c'est vous avez déjà gagné 80% de chance que ce soit pour le Seigneur, parce que le Seigneur il s'occupe des gens. Les programmes, tout ce qui est outils, tout ce qui est choses extérieures, tout ça, c'est pas un problème, parce que le Seigneur peut utiliser n'importe quel outil. Il peut utiliser des anges, il peut utiliser toutes sortes de choses pour amener les personnes au salut. Il n'y a pas besoin d'un grand programme d'évangélisation. C'est pas que je suis contre les programmes d'évangélisation, mais je veux dire, ce qui est important pour nous, c'est de nous occuper des gens, de nous occuper de notre conjoint, de nos enfants. Ça, c'est notre première responsabilité. Ensuite, nous occuper de ceux avec lesquels nous travaillons tous les jours, voyez, etc. Notre prochain qui commence à Jérusalem, en Samarie, etc. Et si nous occupons de ça, eh bien, nous avons déjà de grandes chances d'être dans le plan du Seigneur, parce que le Seigneur s'occupe des gens. Il s'intéresse aux gens. Il veut que ce soit des personnes qui soient sauvées, des personnes qui soient confortées dans leur identité, dans leur personnalité, voyez, et c'est pour ça que Jésus est venu. Il a dit qu'il est venu pour sauver sauver ceux qui sont perdus. Donc attention à vraiment obéir à la direction du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons dans sa volonté, que nous fassions sa volonté. C'est pour cela qu'il faut que nous connaissions sa parole. Nous devons aussi obéir dans tous les domaines de notre vie, notamment dans nos finances, hein, d'avoir une saine gestion de nos finances, dans nos prises de décision, dans nos relations, hein, dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur veut une obéissance, enfin il nous engage à une obéissance à toutes ces choses-là. Notre salut est confirmé par notre obéissance. Voyez-vous, si nous sommes sauvés, bien sûr, nous pouvons dire: Seigneur, merci de m'avoir sauvé, m'avoir donné la vie éternelle, et nous l'avons par la foi en Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous l'avons. Mais le salut ne s'arrête pas là. Le salut, ça veut toucher toute notre personne. Il veut restaurer. Le rachat, c'est le rachat de ce que Dieu a voulu pour nous en tant que personne. Et il nous rétablit dans le salut en Jésus-Christ. Il nous donne tout cela pour retrouver l'identité à laquelle il a voulu que nous soyons. Et c'est pour ça que dans notre vision, notre vocation, c'est d'être une communauté d'hommes qui sont délivrés dans toute leur personnalité. Dans toute leur personnalité. Le Seigneur veut faire épanouir notre personnalité telle que nous l'avons, chacun pour notre part. Dieu nous connaît chacun. Il veut que cet épanouissement puisse se faire, et nous voulons, en tant qu'Église, être un instrument pour cet épanouissement. Donc notre salut est confirmé. Il n'est pas sujet à l'obéissance. Hein, nous sommes sauvés par la foi. Mais si nous obéissons, eh bien, nous rentrons pleinement dans le salut, dans la personnalité profonde que le Seigneur a pour nous. Et notre vie de prière sera efficace et portera du fruit à partir de notre obéissance. Si prenez Jean, évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 31, je lis. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Je le relis. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, vous voyez, en tant que pécheurs, nous n'avons pas beaucoup de chance d'être exaucés de Dieu. Mais nous sommes sauvés en Jésus-Christ, donc nous sommes sauvés. Mais ce que dit ce verset, il dit: si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté. Voyez-vous, il y a des conditions à être exaucé, c'est honorer Dieu et faire sa volonté. Donc si, et c'est ce qui a donné la réussite à Jésus. Jésus, pourquoi il a réussi dans sa mission? Parce qu'il a fait la volonté de Dieu, de son Père. Et c'est pour ça qu'il a appris le Notre Père à ses disciples, parce que ses disciples voyaient qu'il y avait quelque chose de particulier dans la vie de Jésus. Et ils auraient pu lui demander: mais écoute, donne-nous la technique de délivrance. Comment tu délivres? Donne-nous la technique de guérison. Donne-nous la technique. Il aurait pu demander ces techniques, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Jésus prier. Et un disciple, il suit son maître. Et ils ont vu ce que Jésus faisait. Et vous savez vous-même, qui connaissez la Bible, que Jésus passait du temps dans la prière. Et dans des échéances parfois cruciales, il passait toute la nuit en prière avec son Père, qui lui donnait les directives dans la prière. Il savait déjà des choses qu'il avait reçues dans son cœur, et il entrait tout simplement dans ces choses-là, tout naturellement, sans se forcer. Mais les disciples avaient remarqué cette relation entre la prière et l'efficacité de son ministère. Et ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que nous aussi, nous voulons dire, Seigneur, apprends-nous à prier? C'est pour ça, dans cette église, vous le savez, ceux qui sont depuis longtemps, un des fondements, c'est la prière. Et même si nous ne sommes pas nombreux, nous voulons prier, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, voilà, nous avons envie de faire ça, mais nous voulons prier. Nous voulons que toi, tu nous montres ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et la prière est absolument capitale et aussi honorer Dieu. Nous avons appris aussi que l'amour de Dieu est inconditionnel, mais que les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu nous aime de toute façon, même si un chrétien le quitte, comme on dit, rétrograde, dans sa foi, Dieu continuera à l'aimer, il n'y a pas de problème. L'amour est inconditionnel jusqu'au bout, l'amour est inconditionnel. Mais les bénédictions sont conditionnelles. Nous pouvons nous retirer de bénédictions en tant que chrétiens, que nous les pratiquions pour l'obéissance, afin que nous les pratiquions. Et vous, en tant que chrétien, il ne faut pas s'agiter. Il faut, dans la relation avec Dieu, dans la prière, eh bien, savoir que Dieu a préparé des choses d'avance pour nous. Et si nous les pratiquons, si nous sommes dans l'obéissance, si nous sommes capables de discerner ces choses, eh bien nous aurons du temps pour tout ce qui est important. Le superflu ne prendra plus la même importance que quand nous ne sommes pas disciplinés, mais nous sommes toujours disponibles pour Dieu et pour les autres, pour l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Et ça, c'est tout un programme de vie que d'apprendre cela. Jésus a su le faire. Pierre a réussi à la fin de sa vie à le faire. Paul a réussi aussi. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça spontanément. C'est tout un travail de discipline. Je vais terminer là parce que le temps est arrivé. On voit que Christ est notre exemple d'obéissance. On verra certains passages là-dessus. L'obéissance est la clé du succès spirituel et la clé pour libérer les bénédictions et la clé pour la victoire sur l'ennemi et la clé pour vivre dans la paix, la joie de l'Éternel. L'obéissance vient d'un cœur pur, un cœur qui est dégagé de toutes les choses de ce monde pour vivre dans la présence de Dieu. Et dans Matthieu 16, 24, je vous laisse avec ça, il y a quatre outils que nous verrons. Je vous les cite, mais on n'a pas le temps de les voir aujourd'hui, se trouve dans ces versets, Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il y en a six qui veulent venir après Jésus, il s'adressait à ses disciples, il ne s'adressait pas aux incroyants, il y avait des disciples devant lui, il a dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, a priori tout le monde voulait, mais voilà, il donne certaines conditions, si quelqu'un, une condition ça commence toujours par si, donc il ne parle pas si quelqu'un va être sauvé. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut être disciple, s'il accepte la maîtrise, enfin le fait que je sois maître et que vous soyez ses disciples, voilà ce qu'il faut faire. Premièrement, qu'il renonce à lui-même ou qu'il cesse de penser à lui-même. Ça, c'est un premier outil qu'on verra. Deuxième outil, c'est qu'il se charge de sa croix. Alors là aussi, il y a beaucoup de mauvaise compréhension sur cette phrase, qu'il se charge de sa croix. Moi, je vais vous la présenter comme étant un instrument de responsabilité. Qu'il me suive. Je veux dire, on ne sait pas où il va, Jésus. Il faut le suivre là où il va. Et donc là, il y a un inconnu, mais il y a aussi une foi et une confiance. Donc prendre le chemin que Jésus prend. Et à la fin, alors il faut aller au verset 27 pour trouver la dernière clé, la dernière outil, c'est Alors Dieu rendra à chacun selon sa manière d'agir. Donc c'est la manière d'agir, est-ce que j'ai dit pour le bien, pour le mal, dans la manière de faire. Parce que entre le verset 21 et 27, Jésus continue à leur dire, à la fin, il y aura un jugement. Donc il faut le savoir. Et donc il faut répondre aussi à cette action de manière d'agir. Alors les quatre techniques, je dirais techniques entre guillemets, hein, qui vont nous aider à développer cette obéissance, entre autres, hein, dans ce domaine de réflexion, eh bien, c'est aussi des techniques de souffrance librement consenties. Nous voyons que Jésus a accepté la souffrance et c'est par les souffrances qu'il a appris les choses qu'il a pu faire. Mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, la première technique, c'est retarder une satisfaction légitime. On verra comment. Et c'est pas du tout dans l'esprit du siècle. Donc c'est d'autant plus difficile que c'est pas la culture qui va nous y aider. La deuxième technique, c'est accepter la responsabilité. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La troisième, c'est se consacrer à la vérité. Et la quatrième, c'est trouver l'équilibre. Donc ces quatre points, on va les voir dans les dimanches qui viennent pour nous aider à vraiment être concret, pratique, à rentrer dans ce chemin d'obéissance par des biais peut-être que nous n'avons pas encore vus ou entrevus, mais qui va nous aider vraiment à être ces disciples que Jésus veut que nous soyons. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions de nous aider à devenir tes disciples. Seigneur, certes, tu nous as sauvés, nous avons la vie éternelle et nous en remercions. Mais Seigneur, tu nous as appelés pour être dans un plan, là où nous sommes, au moment où tu nous as placés ici sur cette terre, Seigneur, nous sommes dans une chaîne, Seigneur, de génération en génération, d'hommes et de femmes qui témoignent de toi. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est être obéissants à ce que tu veux pour nous aujourd'hui, dans cette région, dans nos familles, dans les liens que nous avons autour de nous, dans notre travail ou notre lieu de rencontre. Seigneur, merci de nous bénir pour nous aider durant cette année particulièrement à bien comprendre, Seigneur, les clés de l'obéissance. Et Seigneur, pour que toi, tu sois vraiment glorifié, nous te demandons ton aide au nom de Jésus. Amen. Amen.